La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde. Nous sommes ensemble face à la pandémie du Covid-19, dans un monde où la crise sanitaire entraîne la multiplication des mesures d'exception pour nous protéger, mais aussi pour nous contrôler. Un monde où les libertés fondamentales se retrouvent limitées au nom de la guerre contre la pandémie, au nom du maintien de l'ordre.
Nous sommes en guerre.
Alerte coronavirus. Tout déplacement est interdit.
Mai 68. Un vent de révolte souffle sur la France.
Non, il faut que ça fume, il faut que ça chauffe, il faut de l'explosif.
Mobilisation des gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est inédit.
C'était un moment de souffrance incroyable.
C'est quelque chose qui rappelle justement la part de violence extrêmement spectaculaire et problématique dans la gestion du maintien de l'ordre.
Depuis le 23 mars 2020, la France est en état d'urgence sanitaire à cause de la pandémie de Covid-19. Nos libertés de déplacement et de rassemblement sont sous contrôle. Au printemps 2020, et pour la première fois, 400 drones de surveillance ont été utilisés par la police et la gendarmerie. Vidéo à l'appui, l'ONG Amnesty International dénonçait alors une quinzaine d'interventions violentes ou discriminatoires lors du confinement. Daphné Gastaldi a questionné Arnaud Hout sur les origines historiques du contrôle sanitaire. Le passé peut-il nous éclairer sur notre temps présent ?
C'est une expérience assez curieuse parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on manque d'expérience historique et il est très difficile pour une fois d'avoir des analogies. Alors j'ai vu qu'on pouvait trouver des analogies plus anciennes en remontant notamment au XVIIIe siècle. J'ai vu circuler des attestations de non-contagion qui datent de 1720 et de la peste de Marseille. Mais c'est tout de même des expériences très anciennes pour une époque où justement la surveillance policière n'est pas du tout comparable à celle qu'on connaît. Et par ailleurs, par d'autres aspects, ça renvoie surtout à un imaginaire qui est plutôt celui de la science-fiction et de la dystopie.
Si on analyse l'histoire de la police et de la gendarmerie, est-ce qu'on peut dire que les crises sanitaires ou sécuritaires transforment les techniques de maintien de l'ordre ?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse systématiquement associer justement crise et transformation, parce qu'il y a des exemples de crises justement qui vont plutôt être des retours en arrière ou ne pas justement susciter de réelles transformations. Cependant, quand on regarde sur la longue durée l'histoire justement de la construction, du renforcement de la police et des forces de sécurité dans la société française et dans les sociétés européennes en général, les crises sont des accélérateurs. C'est rarement en période de crise qu'on invente une nouvelle police. C'est plutôt la période de crise qui rend possible de lever les obstacles, de débloquer les budgets et donc de donner une urgence, si vous voulez, à des réformes qui souvent étaient déjà prêtes, qui étaient déjà dans les cartons ou du moins dans les esprits des réformateurs.
Vous venez d'évoquer la peste noire en 1720 à Marseille. Quel changement a-t-on pu voir à cette époque ? Il y a eu une sorte de police de la peste.
Alors, on peut parler de manière un peu générale justement d'une police sanitaire, puisque la ville de Marseille est bouclée en 1720 dans le but de limiter la contagion. Et c'est quelque chose qu'on retrouve au 19e siècle dans certains épisodes de choléra. L'idée, c'est que la première réponse face à l'épidémie, c'est justement la quarantaine, la fermeture. Alors ceci dit, quand on parle de police, c'est un petit peu abusif parce que en réalité, c'est plutôt l'armée qui va être chargé justement d'assurer tout simplement le siège de la ville, du territoire concerné. Et la police en tant que telle, en tant qu'institution séparée justement de l'armée, ça n'existe pas beaucoup en fait au XVIIIe siècle et ça commence seulement vraiment à se dessiner au XVIIIe, XIXe. Donc à ce moment-là, on n'a pas encore vraiment l'idée justement d'une police qui serait séparée de l'armée et qui pourrait avoir une gestion spécifique de l'épidémie.
En plein confinement, à cause du Covid-19, des violences policières ont été dénoncées. La police des polices a été saisie sur plusieurs affaires, notamment dans les quartiers populaires. Alors avec votre recul d'historien, comment analysez-vous ces violences ?
Je pense que la période de confinement, en réalité, n'est pas vraiment une période à part. C'est plutôt un point de cristallisation, un révélateur finalement de toutes les tensions sociales. On a pu le voir sur la question des inégalités sociales, mais on peut le voir sur la question des violences policières. Au fond, le confinement n'est pas la cause de violences policières, mais il les rend sans doute plus visibles, plus sensibles, dans un contexte justement où il peut y avoir une aggravation des tensions, des contrôles, de la surveillance, et donc justement des épisodes ici qui posent incontestablement problème.
En 2018 et 2019, la France a connu un mouvement social inédit, les Gilets jaunes, avec un pic de violence, près de 2500 blessés parmi les manifestants et environ 2000 au sein des forces de l'ordre. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur d'octobre 2019. Le site Mediapart recensait de son côté parmi ces violences 3 décès, 27 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. Arnaud-Dominique Hout, est-ce une première dans l'histoire des polices ?
C'est toujours délicat de raisonner en termes de première parce qu'il y a un effet un petit peu d'affichage. Et ici, sans rentrer dans ce débat d'un improbable palmarès hein, des violences policières, une chose est sûre, c'est un événement qui, par son ampleur, par la violence, par justement la brutalité des chiffres et des réalités que vous évoquiez, c'est un événement qui fait date. Voilà, ça c'est une certitude. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que des violences policières, il y en a déjà eu. Et notamment, on l'a un peu oublié peut-être, il y a une cinquantaine d'années, autour justement de 68 et des années qui suivent. Où là aussi, hein, en mai-juin 68, il y a des violences policières, il y a beaucoup de blessés, il y a des morts, mais il y a surtout beaucoup de blessés. Donc je ne dirais pas que de ce point de vue, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est inédit. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'on croyait finalement avoir laissé derrière nous et qui rappelle justement la part de violence extrêmement spectaculaire et problématique dans la gestion du maintien de l'ordre.
Stéphane est un documentariste engagé. Il a observé le mouvement des Gilets jaunes à Marseille. Il témoigne sous anonymat au micro de Daphné Gastaldi, un témoignage inédit.
Il y a eu les Gilets jaunes. Le premier jour, c'était le 17 novembre 2019. Et le samedi d'après, j'étais sur le terrain. J'ai commencé comme ça à rentrer dans le mouvement, faire un travail de documentariste, mais pas que, un travail de collecte de données, d'entrepôt. Les deux facettes m'intéressaient, être à l'intérieur du mouvement pour comprendre les mécanismes, mais aussi comprendre la réponse étatique, la réponse gouvernementale.
Fermeté, voici désormais le mot d'ordre du gouvernement en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes.
Il y avait beaucoup de monde cet après-midi, Lénaïque, à Marseille, pour rendre hommage à Zined Redouane, cette femme de 80 ans morte en décembre après un tir de grenade lacrymogène.
C'est le mouvement de la France des oubliés. Pour eux, les policiers faisaient partie des leurs. Au début, on assistait à des, par exemple, des propos tels que « les policiers avec nous ». Et on entendait souvent ça. Mais ce qu'on voyait, c'était une violence incroyable de la part des policiers. C'était vraiment l'utilisation déraisonnée de la matraque. Et sur n'importe qui, ça soit femme, jeune ou ancien, quoi. Au fur et à mesure, bah, y a eu l'introduction des grenades de désencerclement, l'utilisation des gaz lacrymogènes et puis les LBD, quoi.
LBD, lanceur de balles de défense. Et le 23 février 2019, vous suivez la manifestation des Gilets jaunes à Marseille jusqu'au Vieux-Port. Que se passe-t-il à la fin de la manifestation ?
Y a plus de policiers que de Gilets jaunes. Ça commence à chahuter, à un peu se bousculer entre les policiers et le groupe Gilets jaunes. Je commence à filmer, je les interpelle. J'interpelle un des responsables de la police qui fait front à nous et je lui demande « Mais pourquoi ce désordre puisqu'il n'y a personne et pourquoi vous attaquez à cette vieille personne ? C'est pas tolérable, vous ne pouvez pas faire ça. » Et là, de but en blanc, il y a un policier qui me dit « Oh, toi, ferme ta gueule. » Bon. Et là, une deuxième salve de « ferme ta gueule », mais accompagnée de « sale nègre », d'insultes racistes. Et là, j'accepte pas, en fait. Moi, je ne suis pas un nègre. Je ne suis pas noir. Je ne suis pas blanc. Je ne suis rien de tout ça. Je suis une personne. Et au bout de 20 minutes, puisque tout le monde est dispersé, je quitte le Vieux-Port en direction de chez moi. Je veux prendre le métro. Et là, il y a quelqu'un qui m'attrape le bras. Je me retourne. C'est un des policiers que avec qui j'avais parlé au préalable, il m'interpelle et je lui dis, mais pourquoi vous m'arrêtez? Je ne me suis pas débattu, j'ai accepté mon sort, au fait. Et là, il se passe quelque chose que je ne... J'arrive pas à comprendre. C'est qu'il me met la main dans le dos et il commence à m'étrangler. Direct, il commence à m'étrangler.
Qu'est-ce qu'ils font, mec?
Je commence à suffoquer. C'était un moment de souffrance incroyable, incroyable. C'était de l'hyperpuissance. Je n'ai pas compris cette violence.
Vous devriez avoir honte.
On l'entend, toute la scène a été filmée. Des manifestants sont choqués et interpellent les policiers pour que cette violence cesse.
Ça dure tellement longtemps. Alors que c'est à l'image, c'est 30 secondes. Mais dans ma vie, c'est une éternité.
Et vous êtes convoqué au tribunal de grande instance de Marseille. Nous avons pu consulter les documents. On vous propose alors une sanction pour éviter un procès. Ce qui vous est reproché, c'est d'avoir commis un outrage envers cet agent.
Je paye 400 euros et puis après, on oublie tout, on efface tout. J'ai refusé parce que moi, je veux aller au procès. De quel droit ces policiers m'ont torturé, m'ont étranglé? De quel droit? Quel droit ils avaient à m'étrangler? En fait, c'est pas un maintien de l'ordre, en fait. C'est ça qui me trouble, c'est un maintien du désordre.
Nous avons contacté la préfecture des Bouches-du-Rhône pour une interview sur l'action de la police à Marseille pendant le mouvement des Gilets jaunes. Notre demande a été refusée. Nous sommes de retour avec vous, Arnaud-Dominique Hout. Nous venons d'entendre le témoignage d'un homme qui souhaite rester anonyme. Il s'interroge sur l'origine de cette violence. Est-ce un problème structurel au sein de la police ?
Alors, je commencerai par vous dire que la police s'accompagne nécessairement d'une part de violence. Par définition, la police, j'entends la police au sens général, hein, police, gendarmerie, la police a une utilisation de la violence. Maintenant, il y a plusieurs conceptions de la police. Il y a une conception dans laquelle, justement, la violence va être l'identité, la spécificité de la police. Il y a une autre conception qui considère, au contraire, que la police doit être capable d'utiliser la violence, mais que ce n'est pas sa mission ni son identité première. Disons que de ce point de vue, il y a toujours un débat, hein, et dans l'histoire, on le retrouve sur la longue durée. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, la police est souvent présentée par l'extrême droite comme la force au service de la franc-maçonnerie, de la gauche, alors qu'en revanche, dans les années 50-60, la police est plutôt présentée par les communistes, cette fois, comme la force de l'impérialisme et d'un État répressif.
Arnaud-Dominique Hout, comment vous définiriez le maintien de l'ordre à la française ?
Dans l'idéal, justement, présenté par la gendarmerie et par la police, repose, justement, depuis 1968, sur l'idée que la police et la gendarmerie sont capables de faire face à des mouvements sociaux en limitant la violence qui va être mise en œuvre et en ne tuant pas. Après 68, il y a un peu une légende qui va circuler, qui est la légende du zéro mort en mai 68. C'est une légende parce qu'il y a eu des morts en 68. Mais en revanche, elle renvoie au fait que justement, on essaye de montrer une diminution du niveau de violence policière et d'en faire justement un indicateur finalement de réussite de ce maintien de l'ordre à la française. Puisqu'en fait, cette police, si on veut vraiment brosser une évolution à grands traits, on peut considérer que son problème principal, c'est de se faire accepter par la société. Pendant longtemps, la police est vue comme l'agent de l'État contre la société. Tout l'enjeu, c'est de réussir à passer justement, pour reprendre des mots du 19e siècle, du sergent de ville, militaire au service de l'État, au gardien de la paix. Gardien de la paix qui, lui, va être considéré justement comme au service de la société. Et c'est une évolution qui se fait très progressivement, sans qu'il y ait forcément de réformes, de grandes proclamations, mais qui se fait notamment par le recrutement des policiers et des gendarmes, qui va permettre justement de provoquer un rapprochement social avec les populations, qui correspond aussi tout simplement à la demande des populations qui veulent, de manière un peu générale, de plus en plus des gardiens des propriétés, des gardiens contre la violence, une violence qui est jugée moins acceptable, et donc on s'en remet de plus en plus à une police qui, sur la longue durée de l'histoire, est de moins en moins redoutée et de plus en plus recherchée. Et ça, on le mesure hein, sur le 19e, 20e siècle, tout simplement quand on voit que c'est par exemple un enjeu électoral pour les municipalités d'obtenir l'installation d'un commissariat de police, par exemple.
Et pour évoquer cette dimension de protection du citoyen, on peut remonter jusqu'à la prise de la Bastille, la plus célèbre des prisons françaises, symbole d'un pouvoir monarchique arbitraire. Est-ce que cet événement est un tournant, Arnaud Hout ?
L'expérience de la Révolution, en montrant justement la fragilité d'un État qui ne serait pas bâti sur la démocratie, ça oblige à repenser la police et notamment à essayer davantage de concilier les enjeux, on va dire, de sécurité de l'État et la demande populaire. Disons que ce qui s'impose avec la Révolution française, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir une police contre le peuple. Et c'est ce que dit justement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui explique justement qu'il faut constituer une force publique, mais le texte précise bien, pour l'utilité de tous.
Arnaud Dominique Hout, vous avez centré vos recherches sur le 19e et le 20e siècle dans votre livre « Histoire des polices ». Comment s'est renforcé l'État policier sous Bonaparte ? Je pense notamment à sa fameuse police secrète.
Alors, dans le cas de Napoléon Bonaparte, il y a une dimension particulièrement visible, c'est la volonté de renforcer le contrôle des opposants. Celui qui incarne ça, c'est son ministre de la police générale, Fouché, qui est réputé justement pour tenir des fiches sur tout le monde. Ce qu'il en reste durablement, c'est la volonté de structurer justement des réseaux d'information. C'est l'idée que une bonne police, c'est une police qui produit de l'information et qui l'interprète. Alors ça, c'est un versant très important. Ce n'est pas le seul, parce que le régime impérial va aussi instituer un certain nombre de principes, d'institutions, la préfecture de police, la gendarmerie finalement sous sa forme moderne, dont la mission n'est pas uniquement politique, mais dont la mission est aussi plus globalement d'assurer une surveillance générale. En réalité, le problème qui se pose dans la première moitié du 19e siècle, et même en fait jusqu'à la Commune de Paris, jusqu'à 1871, c'est celui des révolutions qui continuent. Finalement, la Révolution française ne se termine pas tout à fait avec Napoléon, elle se prolonge avec justement des rebonds réguliers, des insurrections régulières. Face à ce problème, l'État va être amené justement à adapter la législation et à mettre en place des procédures justement de répression. Mais il ne suffit pas de réprimer, il faut réprimer en ménageant malgré tout le lien avec la société, et c'est en ce sens justement qu'on définit de plus en plus des principes d'action libéraux. Ces principes, notamment, ce sont ceux des sommations, qui permettent à la police, à la gendarmerie ou à l'armée d'ouvrir le feu, mais sous condition. C'est-à-dire qu'ici, on pose un cadre juridique qui est censé garantir finalement le droit des individus contre l'arbitraire policier.
Et puis en 1909, on voit apparaître une nouvelle méthode de maintien de l'ordre. Il y a la création des services d'ordre, comme on en trouve encore aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il y avait des hommes et des femmes dits de confiance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces services d'ordre ?
Là aussi, si on se replace dans le contexte précis, le 13 octobre 1909, il y a une manifestation qui a dégénéré très violemment. 4 jours plus tard, une deuxième manifestation doit être organisée. Et c'est dans ce contexte qu'on va négocier pour la première fois, de manière assez officielle, la mise en place d'un parcours toléré par la préfecture de police, et avec l'idée également que les manifestants vont se doter de leur propre police, les hommes de confiance, c'est-à-dire justement un service d'ordre, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, qui n'est pas employé à l'époque, mais c'est bien la même chose, des hommes de confiance qui garantissent la sécurité de la manifestation. C'est au fond l'apprentissage d'un maintien de l'ordre négocié, coproduit entre justement la police et les manifestants.
Est-ce que c'est le début de ce modèle français de négociation, de désescalade de la violence, comme on dit aujourd'hui, qu'on voit apparaître avec ce service d'ordre ?
Alors c'est en tout cas un modèle de désescalade, ça c'est très clair. En faire un modèle français serait assez discutable parce qu'en réalité, en 1909, on explique que c'est le modèle anglais dont on s'inspire.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Et dans La Marche du Monde, Daphné Gasteldi mène l'enquête sur la construction historique du maintien de l'ordre à la française. Après l'arbitraire de la monarchie et les droits de l'homme révolutionnaires, la conception d'une police protectrice du peuple est fondée. Les forces de l'ordre se renforcent et se professionnalisent dans un modèle de désescalade de la violence. Mais à chaque crise, le modèle montre ses limites, et particulièrement dans les crises politiques. Retour sur la guerre d'Algérie et ses violences perpétrées en plein Paris, à l'automne 61, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, après celle de Pétain et de l'occupation allemande. À la lumière des archives de la police, le politiste Emmanuel Blanchard revient sur les crimes perpétrés par les forces de l'ordre lors de manifestations de militants du FLN qui réclament l'indépendance de l'Algérie.
Tout au long de l'automne 1961 et en particulier les 17 et 18 octobre 1961, des exactions sont commises. Des contrôles d'identité multiples s'accompagnent de violences et s'accompagnent de tentatives de meurtre, notamment en jetant des personnes dans la Seine, dans des canaux. Ainsi, on considère qu'à l'automne 1961, au moins une centaine d'Algériens ont été tués par les forces de l'ordre en région parisienne.
Ils marchaient sur les femmes, sur les gens, ils les tapaient.
Il nous a foutu des coups de mitraillette, il nous a tiré les coups de mitraillette. Ben, il a attrapé le gosse, il l'a foutu dans la Seine.
La suite tourne au cauchemar. Durant des jours, la Seine charrie des cadavres. La bataille de Paris, selon le préfet Papon. Un massacre pur et simple, selon les témoins.
30 000 Algériens proches du FLN, le Front de Libération Nationale, manifestent pacifiquement à Paris pour protester contre le couvre-feu qu'il leur est imposé et pour l'indépendance de l'Algérie. Emmanuel Blanchard, vous faites toujours des recherches pour comprendre l'anatomie de ce massacre, les traces que ces morts ont laissées dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le préfet de police à l'époque et sur sa doctrine du maintien de l'ordre ?
Le préfet de police était Maurice Papon, venu de Constantine, où il était doté de pouvoirs extraordinaires dans la période de la guerre contre les indépendantistes algériens. Maurice Papon est rappelé à Paris pour remettre de l'ordre dans la préfecture de police. Donc Maurice Papon fait partie de ces préfets de police qui sont décrits dès l'époque comme dotés d'une autorité exceptionnelle, je cite, « des hommes à poigne ». Et la première mission qui lui est donnée n'est pas tant de combattre la Fédération de France du FLN que de remettre les policiers dans les rangs.
Et son mot d'ordre est « pour un coup reçu, vous en porterez 10, dans tous les cas, vous serez couvert ».
La phrase que vous venez de citer est une phrase qui a été prononcée par Maurice Papon au début du mois d'octobre 1961 aux obsèques d'un gardien de la paix qui avait été tué par des membres d'un groupe armé comme un mandat donné à la police parisienne pour qu'elle se fasse vengeance elle-même. Au cours de cet automne 1961, ces mots avaient été interprétés comme une sorte de licence de tuer par un certain nombre de policiers.
Il faut rappeler que Maurice Papon sera condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité sous le régime de Vichy.
Trois jours durant, la capitale du Gabon, qui porte le nom éloquent de Libreville, a fait du premier anniversaire de son indépendance sa première fête nationale. Avec la délégation française présidée par M. Jacquinot, près de 40 délégations étrangères étaient venues manifester leur sympathie au jeune État. La plus importante des cérémonies devait faire défiler devant M. Léon Mba, président de la République gabonaise, avec la jeune armée du nouvel État souverain, les enfants des écoles et les groupes sportifs.
Sidina Noël Mvukunta, vous êtes docteur en histoire contemporaine basé à Libreville, au Gabon, et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde. Vous avez étudié l'histoire du maintien de l'ordre dans votre propre pays, épluché les archives de la gendarmerie coloniale et les archives nationales du Gabon. Comment l'Empire français a exporté son modèle de maintien de l'ordre dans votre pays ?
Cette perspective de créer les empires, il n'y avait pas que ce volet de domination qui intéressait les théoriciens de la colonisation, mais à côté, il y avait ce désir de mettre en place des États qui permettraient justement à la France d'exercer sa souveraineté sur les territoires conquis. Il fallait donc exporter aussi des institutions, notamment la gendarmerie, la police et l'armée. Donc c'est par le biais d'abord de la colonisation et ensuite la décolonisation, puisque ces principes de maintien de l'ordre sont aussi transférés aux États nouvellement indépendants.
Au moment de l'indépendance du Gabon en 1960, comment ce transfert a été mis en œuvre ?
En signant des accords d'assistance technique, décide donc de transmettre aux États nouvellement indépendants le personnel qui était en service dans les institutions coloniales, mais aussi l'appareil administratif, les matériels, mais également la réglementation, la tradition et la culture militaire.
On peut dire que c'est une coopération franco-gabonaise avec des assistants techniques qui vont rester en place.
Bien sûr, ces assistants techniques-là vont être chargés non seulement de l'organisation des nouvelles institutions qui sont créées, mais aussi de l'encadrement et de la formation. Ce sont des Français qui restent en poste et il faut dire que les assistants qui sont mis justement à disposition du gouvernement gabonais sont avant tout ceux qui étaient là au moment de la colonisation.
Vous m'aviez dit que la gendarmerie, la police sont quelque part les filles des forces françaises implantées pendant la période coloniale.
Ils sont bien entendu des filles dans la mesure où, comme nous venons de le dire, il y a eu en quelque sorte un transfert de pouvoir militaire de la France aux États nouvellement indépendants. Parce que l'indépendance ici n'a pas constitué une rupture. Il n'y a pas une rupture, il y a en quelque sorte un prolongement.
Et puis progressivement, la police, la gendarmerie finissent par être totalement contrôlées par les Gabonais. Est-ce qu'on retrouve ce schéma dans les autres anciennes colonies françaises sur le continent africain ?
Oui, ce schéma est observé dans les autres États nés de l'éclatement de l'Empire colonial français. Bien sûr, il y a eu des États qui ont pris une orientation politique plus ou moins différente, notamment la Guinée de Sékou Touré, mais aussi le Congo, Brazzaville, qui, nous l'avons vu, a installé rapidement un régime socialiste, pour ne pas dire communiste, avec une forte assistance cubaine et russe après le coup d'État contre le président. Car cela ne tienne, il y a eu un regain d'intérêt pour l'assistance militaire française. Pour le cas du Gabon, c'est elle qui a toujours été là. Et même s'il y a eu une gabonisation, une africanisation du commandement de ces institutions, les commandants qui étaient là, donc locaux, ont été secondés par les officiers français jusque dans les années 80, voire les années 90, avec une déflation progressive du personnel militaire français lorsque ces derniers étaient déjà considérés comme aptes à s'auto-gouverner ou à prendre en charge le gouvernement de leur propre institution militaire.
Tout au long du XXe siècle, le maintien de l'ordre à la française est assuré conjointement par les forces de police et de gendarmerie, et que ce soit en métropole ou dans les anciennes colonies, les mouvements de jeunesse des années 60 vont les prendre pour cible. À Paris, les CRS sont associés aux SS dans les slogans, en référence à l'organisation criminelle du pouvoir nazi, tandis que le préfet Grimaud intime ses agents de traiter les manifestants avec respect.
Je suis général Philippot, j'ai démarré ma carrière en 68.
Mai 68. Un vent de révolte souffle sur la France. Les étudiants, les ouvriers sont dans la rue. Le pouvoir craint une révolution. De ces semaines tumultueuses, la postérité n'a retenu que ses meneurs. Mais qui se souvient des hommes qui leur faisaient face ? Policiers, CRS, gendarmes, ils étaient en première ligne. Sous les injures et les pavés, en attendant la charge, le sort de la République était entre leurs mains. Malgré la violence, comment le pire a-t-il été évité ?
On vient d'entendre un extrait du film 68, Sous les pavés, les flics. Général Philippot, vous avez une double casquette car vous êtes aussi historien. Vous avez même été à la tête du service historique de la gendarmerie nationale et vous avez vécu mai 68 de l'intérieur. Vous étiez lieutenant à l'époque. Quel souvenir avez-vous de cette période ?
Ah, c'est une expérience très riche. J'étais à l'époque commandant de peloton. Je me suis retrouvé au sein d'un escadron donc à Paris. Et là, j'ai perçu le premier sentiment, si vous voulez, de ces premiers jours, c'était l'affolement. Les escadrons, ils étaient là un jour, après on partait ailleurs le lendemain. L'autre caractéristique, c'était l'écart entre les comportements, les mentalités des jeunes manifestants et les gendarmes.
Est-ce que vous vous souvenez des slogans contre les forces de l'ordre ?
On trouvait sur les murs de nuit, quand on circulait, des formules devenues célèbres. « Faites l'amour et pas la guerre », ce en quoi on était tout à fait d'accord avec eux. Hein. Mais bon, vous aviez aussi, alors, « Il est interdit d'interdire », j'ai vu ça, c'était où ? À Nanterre, « Il est interdit d'interdire », quel beau slogan.
Comment se passaient vos interventions, place de la Sorbonne par exemple ?
La plupart, justement, c'était plutôt des formations de refoulement, c'est-à-dire qu'on poussait des manifestants qui occupaient la place de la Sorbonne, et puis, à l'ordre, l'ensemble du rideau de gendarmes poussait les manifestants. Quoi. C'était, j'ai vu d'autres manifestations, ça chauffait un peu, mais pas beaucoup de violence, pas beaucoup de violence. Donc, si vous voulez, pour les gendarmes mobiles que je commandais, ils n'ont jamais eu l'impression de vivre une révolution, mais pas du tout.
Quelle doctrine de maintien de l'ordre avez-vous connue en 68 ?
On a bien senti quand même qu'on essayait du côté du pouvoir de limiter la casse. Il ne fallait pas aggraver la situation, il fallait calmer.
Selon vous, à quoi reconnaît-on le maintien de l'ordre à la française ?
Il faut que ça fume, il faut que ça chauffe, il faut de la fumée, il faut de l'acrymogène, il faut de l'explosif. C'est un rituel. Il y a un rituel français du maintien de l'ordre. Mais ça continue. Il y a une réforme profonde, mais vraiment profonde à faire.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée.
Des images d'Épinal, ce mois de mai en a laissé beaucoup. Des slogans outranciers et des scènes de violences absurdes. Mai 68 à Paris, 6 semaines de crise, 9 jours d'émeute, plus de 600 blessés, 3 morts. Mais beaucoup d'acteurs savent que le bilan aurait pu être plus lourd.
Nous retrouvons le chercheur Emmanuel Blanchard. Nous sommes en mai 68 à présent. Il y a eu une politique zéro mort en mai 68, bien qu'il y ait eu des morts, moins de 10 de ce que l'on sait, de nombreux blessés. Emmanuel Blanchard, à l'époque, le préfet de police à Paris, c'est Maurice Grimaud. Il a gardé l'image d'un humaniste qui a évité que le sang ne coule en 68. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image ?
Il faut savoir qu'au début des événements dits de mai et juin 1968, il y a de très nombreuses mises en cause de l'action des policiers. Nous sommes à une époque où les photographes vont au plus près des rangs manifestants et rendent compte de très nombreuses violences policières. Et pendant les premières semaines des événements de mai 1968, la presse est très largement focalisée sur les violences policières et en empathie avec les manifestants. Il reste qu'il y a eu un tournant qui est lié au fait que les violences manifestantes ont de plus en plus été décriées, notamment à partir du moment où elles ont entraîné des blessures graves ou même des morts d'hommes chez des policiers. Un commissaire est décédé à Lyon dans le cadre d'une intervention contre des manifestants. Et ce tournant a fait que la police a de plus en plus été regardée comme ayant été en capacité de faire en sorte que cette révolution, qui était pensée comme telle par une partie des manifestants, ne se termine pas en 20 ans. Donc Maurice Grimaud est notamment resté dans l'histoire pour sa lettre à l'ensemble des agents de la préfecture de police le 29 mai 1968, dans laquelle il appelait ses troupes à la retenue et dans laquelle il a notamment eu cette phrase « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même ». Et cette action du préfet Grimaud, il est nécessaire de la comprendre en synergie avec les syndicats de police de l'époque. Le principal syndicat de police de l'époque, et en particulier son dirigeant à la préfecture de police de Paris, Gérard Monnat, était en symbiose avec Maurice Grimaud, car les uns comme les autres savaient que ce type de consigne passe mal dans les rangs policiers. Quand des policiers sont soumis à des violences, ils supportent très mal d'être rappelés à l'ordre par leur préfet de police et plus généralement par leurs autorités. Maurice Grimaud s'est appuyé sur les syndicats de police pour faire prendre conscience aux gardiens de la paix que cette lettre n'était pas destinée à les mettre en cause, mais était destinée à préserver la réputation de leur institution dans ce moment historique. Il n'en reste pas moins que, comme vous l'avez rappelé, il y a bien eu des morts. Donc on est loin d'avoir eu des pratiques de police pacifiées, des pratiques de police qui n'aient pas entraîné blessures ou morts d'hommes. Mais le tournant, il est aussi dû à l'action du préfet Grimaud, qui a eu une lettre diffusée dans les services de police le 29 mai 1968, dans laquelle il appelait très clairement ses personnels à éviter les violences, en particulier dites les violences à froid.
Je vous propose d'écouter une autre archive, une archive de l'INA, une rétrospective sur mai 68, diffusée 30 ans après.
Frapper un manifestant tombé à terre, écrit le préfet, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Le message est clair.
Nous venons d'entendre la doctrine du préfet Maurice Grimaud en mai 68. Emmanuel Blanchard, qu'a-t-on gardé de cette politique zéro mort, si je puis dire ?
Alors, d'une certaine façon, Maurice Grimaud n'a pas eu d'héritier, puisque les événements de mai et juin 1968, avec leur remaniement ministériel, ont amené au ministère de l'Intérieur Raymond Marcellin. Raymond Marcellin, en qui le général de Gaulle avait une pleine confiance, puisqu'il savait que Raymond Marcellin était au nombre de ces ministres qui seraient sans pitié, sans tendresse pour la jeunesse révoltée. Raymond Marcellin va impulser une politique qui n'est pas du tout inspirée de ce que certains ont appelé la doctrine Grimaud. C'est celle d'une police dont la mission est de combattre par le renseignement, par un maintien de l'ordre offensif, par des arrestations, les groupes révolutionnaires d'extrême gauche et d'extrême droite aussi, est-il dit, même si son attention est beaucoup plus forte pour les groupes d'extrême gauche qui, il est vrai, recrutent plus dans la jeunesse à cette époque.
Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Volinsky, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et 2 policiers, des terroristes lourdement armés qui sont toujours en fuite. Des centaines d'hommes sont à leur trousse.
On s'en souvient, en 2015, la France a subi des attaques terroristes. L'équipe du journal satirique Charlie Hebdo, des otages de l'hypercacher à Paris et des spectateurs du Bataclan, mais aussi des policiers, sont assassinés. Emmanuel Blanchard, on assiste alors à une vague de soutien des forces de l'ordre avec des slogans comme « Je suis policier ». Est-ce rare dans l'histoire des polices ?
Il y a un soutien aux forces de l'ordre, qui s'est aussi traduit par une hausse de la confiance, telle qu'elle est mesurée en tout cas dans les sondages, de l'ensemble de la population. Mais ce soutien s'est érodé dans les années suivantes, érodé à la fois sur des territoires circonscrits en raison de l'état d'urgence et des pouvoirs policiers et des violences policières générées par l'état d'urgence, notamment dans un certain nombre de banlieues. Ensuite, dans la façon dont le maintien de l'ordre a été assuré au moment des mouvements contre les lois travail et des mobilisations dites des gilets jaunes.
Le jour de mobilisation des gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Gilets jaunes.
Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen.
Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc-là, c'est plus qu'un gilet. Je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Ok, très bien, je vais pas tergiverser. Très vite, je te fais le topo. Beaucoup de paroles viennent dans ces versets. Ingrats sont les propos, c'est triste que vous ne la voyez pas. Cette chance que vous avez de vivre en France, vous faites partie des mieux lotis, je pense.
On a voulu en savoir plus et laisser un membre de la police raconter son expérience. Grégory Joron, bonjour. Vous êtes CRS, secrétaire général délégué du premier syndicat de police en France, unité CGP FO Police. Et en 2015, il y a eu une vague de soutien pour les policiers après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ou du Bataclan. Des policiers ont été tués aussi. Aviez-vous déjà vécu ce genre de soutien ?
Non, j'ai presque envie de dire heureusement, même si c'est beau à voir et que l'élan national fait toujours plaisir et donne du baume au corps aux collègues, on voit malheureusement que la raison qui pousse les gens à faire ça est plutôt triste et dramatique. 5 ans après, l'image de la police, c'est quand même malgré tout un peu dégradée quand on regarde les sondages d'opinion publique. Et le mouvement des Gilets jaunes a creusé un peu le fossé à certains endroits entre la population et les policiers.
Depuis ce pic de violence lors du mouvement des Gilets jaunes, le maintien de l'ordre à la française est contesté. Vous le comprenez ?
C'est un échec dans l'absolu en termes de réponse, on va dire, et de stratégie. Pour autant, remettre en cause l'ensemble du maintien d'ordre à la française ne me semble pas être le bon angle. Mouvement des Gilets jaunes, je pense dans n'importe quelle démocratie adulte, il n'y a pas grand monde qui aurait pu y faire face, on va dire. Et je ne balaye pas la gravité des blessures, ni le nombre de blessés d'un revers de main en disant que ce n'est pas grave et que c'est le prix à payer, hein, pas du tout. Cette particularité, c'était d'être pas déclaré, c'était de ne pas avoir d'interlocuteur. Donc tout ça remettait en cause, en effet, les bases du maintien d'ordre à la française. Maintenant, si on parle d'opérationnalité, on avait déjà de toute façon pris du retard par rapport aux événements de la loi travail et on voyait déjà des groupes ultra. C'est ce mouvement-là qu'on n'a pas su anticiper. Ou même si l'élan était populaire et était plutôt bien vu de la plupart des Français, on a très vite fait face à des gens déjà très radicalisés. Il y avait une recherche de contact, donc le maintien de l'ordre à la française, c'est une philosophie qui est basée sur l'évitement et la gestion de foule à distance. On veut créer un no man's land pour éviter les contacts. Ça vient du début du siècle dernier, où finalement on a décidé qu'en face, c'était simplement des citoyens qui pouvaient s'égarer, et dès lors, il ne fallait pas les blesser dans leur chair. D'où l'utilisation des gaz, d'où les stratégies d'évitement, parce que qui dit contact, dit violence physique, qui dit violence physique, dit blessé, quel que soit le côté.
Jamais depuis mai et juin 1968, et avec encore plus de force dans le mouvement des Gilets jaunes, les interventions policières n'avaient blessé, voire tué, tant de personnes. Il est sans doute difficile de donner des explications, mais en tout cas, on peut comprendre ce niveau de violence élevé par les dotations en armement des policiers français. Ils ont ainsi un certain nombre d'entre eux, notamment des compagnies d'intervention, des BAC, utilisés fortement des lanceurs de balles, utilisés des flashballs. Les gendarmes, mais aussi d'autres corps, ont utilisé des grenades dites offensives qui ne font pas partie de l'arsenal des autres polices européennes. Autrement dit, si la police française blesse plus de manifestants que d'autres polices, ce n'est pas simplement parce que les manifestants français seraient plus violents, c'est surtout parce que la police et la gendarmerie française sont dotées d'armes que n'ont pas les autres forces de police européennes.
Merci Emmanuel Blanchard. Au début de l'émission, on a d'ailleurs entendu le témoignage d'une personne victime de violences policières. Grégory Joron, vous qui êtes CRS et syndicaliste, comment lutter contre ces violences envers des citoyens pacifiques?
Si vous reprenez un peu l'histoire très récente du maintien de l'ordre, il y a eu un drame sur le barrage de Siffins avec la mort de Rémi Fraisse et l'usage d'une grenade offensive. Il y a eu un rapport IGGN-IGPN sur l'utilisation des moyens en maintien de l'ordre et des préconisations qui étaient données, dont certaines qui avaient, à mon sens, de l'intérêt réel. Je parle par exemple de communication à l'endroit des manifestants. C'est ce en quoi on prend beaucoup de retard d'ailleurs, puisque je pense qu'on a tout à gagner à être transparent sur les méthodes employées, sur le déroulé d'un maintien de l'ordre, à expliquer quand est-ce qu'on utilise la force et pourquoi on le fait.
Alors, on l'a entendu, des violences policières contre des personnes pacifiques ont été dénoncées. Y a-t-il un problème de formation en France ?
Alors moi, les violences policières, je réfute aussi un peu le terme, parce que c'est un réflexe qu'on a pris comme si ça devenait systémique et que dès qu'il y avait des policiers, il y avait forcément des violences, donc ça me gêne toujours un peu. Après, comme je disais, des violences illégitimes, ça peut exister. Mais au-delà de ça, bien sûr qu'il y a un problème de formation. Il a fallu mettre quasiment tout le monde sur le terrain. On a sorti tout le monde, même les collègues qui n'ont jamais fait de maintien de l'ordre, pour gérer des foules. Le maintien de l'ordre, c'est une affaire de professionnels. Si vous ne formez pas vos agents à ça, si toute l'année ils sont en BAC ou autre service d'appui et finalement ils sont habitués à intervenir dans des milieux hostiles en sous-nombre où forcément ils engagent tout de suite beaucoup plus les moyens et de manière un peu plus agressive et que le lendemain, vous dites, bah, aujourd'hui vous faites la gestion de foule avec les mêmes moyens, avec les mêmes méthodes, etc., il va forcément y avoir des problèmes. Donc. Et au-delà de ça, il y a la responsabilité évidemment des donneurs d'ordre qu'on n'accroche jamais et de ce qu'a fait l'autorité d'emploi.
Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, met directement en cause les forces de l'ordre. Même face à la multiplication des affaires et alors que plusieurs enquêtes sont en cours, Christophe Castaner se refuse toujours à utiliser l'expression « violence policière ». L'opposition, insoumise en tête, regrette, elle, une forme d'omerta de la part de l'exécutif.
Et la responsabilité des donneurs d'ordre, c'est aussi la responsabilité du gouvernement interpellé sur la gestion de la crise des Gilets jaunes et aujourd'hui sur la gestion de la crise sanitaire. Une question sur laquelle le ministre de l'Intérieur français et des experts ont commencé à plancher en juin dernier. Et après 7 mois de mobilisation des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lançait une réflexion sur le maintien de l'ordre afin, je cite, de faire évoluer en profondeur la doctrine de sécurité publique rendu nécessaire par la montée des violences, a expliqué le ministère. De leur côté, des syndicats de police ont lancé au gouvernement un appel pour réinventer la police. Un an plus tard, Emmanuel Macron a remplacé Christophe Castaner par Gérald Darmanin. Puis, face à de nouvelles affaires de violences policières, le chef de l'État a annoncé un Beauvau de la sécurité où la réforme de la police sera enfin discutée. Ainsi s'achève cet épisode de La Marche du Monde, signé Daphné Gastaldi, Valérie Nivelon et Sophie Janin. Plus d'infos à retrouver sur Facebook et sur Twitter, ainsi que sur la page de La Marche du Monde. Au nom du maintien de l'ordre, c'est une émission à réécouter et à podcaster grâce à l'application de RFI Pure Radio sur votre téléphone. Cette émission, encore et toujours, c'est la vôtre.